C'est la deuxième heure de ce 1127e Sweet Home Chicago. On a terminé la première heure avec deux titres de Jérôme Pietri, If It Bleeds, It Leads, puis Money, tous les deux extraits de son dernier album Last of the Fishing Days. Jérôme Pietri, l'interview. Jérôme Pietri, bonjour.
Bonjour.
Très heureux de te retrouver à l'antenne du 666 dans Sweet Home Chicago. Ça fait déjà quelques années. Je ne sais pas si tu te souviens, on avait parlé de ton avant-dernier album, hein, tout simplement.
Oui, j'étais sur la route, j'allais jouer au Souboc d'ailleurs.
C'est vrai.
Je m'étais arrêté, je m'en rappelle. Oui, tout à fait. Tu vois.
Alors, oui. Jérôme, moi, ce que je te propose, parce qu'il y a peut-être des gens qui ne te connaissent pas vraiment ou qui ont entendu parler de toi et qui sont restés peut-être pour certains sur des idées fausses, ça serait pas de te poser forcément des questions, mais allez, t'apporter des mots-clés comme ça, et peut-être des mots, des groupes de mots qui vont t'emmener à différentes parties de ta vie personnelle ou de ta vie musicale. Qu'est-ce que tu en penses?
Oui, parfait.
On fait ça?
Très bien.
Alors, la première guitare, Jérôme.
Oui, Egmont Lucky Set. C'est une guitare électrique, autrement, c'est une acoustique pourrie. J'ai tenu les moniteurs en colo, j'étais en colo avec un truc cato, c'est marrant. Et c'était la mode de Wad Icé, tout le monde jouait ça, avec deux doigts, je les ai tannés, et donc jusqu'à ce qu'ils m'apprennent, et quand je suis rentré, j'ai tanné mes parents. Voilà, après, donc c'était acoustique, et après, première guitare électrique, c'était une Egmont Lucky Set, qui était abominable. Au bout de 3 mois, je pouvais tirer à l'arc avec, tu vois, il n'y avait pas de Trostrod, donc les cordes étaient à 10 cm du manche. Et après, c'était SG très très vite, parce que j'étais fan de Hendrix, des clowns, et notamment, je voulais une Les Paul, mais j'avais pas de pognon. Donc à l'époque, une SG, c'était 2 fois moins cher. Comme je ne suis pas très grand, ça allait bien.
Mais c'était déjà déjà Gibson, Jérôme.
Yes, à fond. Yes, très Gibson. Oui.
Tu viens d'évoquer Hendrix, on en parlera tout à l'heure justement. Ça fait partie d'une autre partie de cette interview. Allez, blues, rock, jazz. Où est-ce que tu te situes et est-ce que tu as envie de te situer d'abord?
D'accord, alors c'est une très bonne question. Je te remercie de nous l'avoir posée.
Question suivante.
Grand classique. Blues d'abord, mais en fait j'aurais pu répondre les trois, mon capitaine, parce que disons que mon cocktail d'aujourd'hui, c'est le blues en premier, que j'ai joué à l'insu de mon plein gré quand j'étais au collège, comme on a dit les guignols de l'info, avec les pionniers des fricheurs anglais, les Animals, les Them, les Kings, les Stones, évidemment, qui ont fait le début de leur carrière avec des standards de blues, hein, des covers. Et après, aujourd'hui, avec tout ce que j'ai fait pendant quelques décennies, c'est le blues en premier, mais avec les musiques qui en viennent en droite ligne, qui comportent tous les ingrédients du blues, si tu veux, au niveau du rythme et de l'harmonie, de l'aberration harmonique, notamment majeur mineur, à savoir le rock'n'roll, puisque j'ai été très très rock'n'roll, je suis toujours d'ailleurs, avec le rôle très très important, le rôle pour moi c'est même primordial, et le jazz, et pour résumer, disons que j'ai un peu l'approche, j'adore le Allman Brothers Band depuis très très longtemps.
Allman Brothers Band, oui.
Voilà, et toute cette mouvance, tu sais, Derek Trucks, qui est un extraterrestre aujourd'hui.
C'est vrai, c'est vrai.
Et Warren Haynes, tous ces gens-là, tu vois, toute cette mouvance, parce qu'ils mènent justement le blues, le rock'n'roll et le jazz. Et Robin Ford, évidemment, qui a juste joué avec Miles Davis, excusez du peu, et qui a bien résumé son approche qui me correspond pas mal aujourd'hui, avec un peu moins de jazz dans mon approche, mais Robin Ford a dit à une époque qu'il aimait, il adorait le climat du blues, ce qui est mon cas évidemment, c'est même au-delà, moi ça me met en transe quand j'écoute du blues, j'ai pas d'explication rationnelle d'ailleurs, et l'énergie du blues et la sophistication harmonique du...
L'énergie du rock'n'roll, la sophistication du jazz et peut-être aussi l'authenticité du blues, Jérôme. Jérôme Pietri, l'Auvergne.
L'Auvergne, je n'y vis plus. C'était, si je pense à l'Auvergne, je pense à la nature, l'authenticité, bon, un peu considéré quand même très longtemps comme le trou du cul du monde, notamment par les journalistes. Mais ça a changé complètement tout ça aujourd'hui, c'est cool d'être en Auvergne. Comment dire, la pêche à la mouche, je suis barge de...
Bah oui, la pêche à la mouche, ça fait partie des mots-clés, effectivement. Ouais. Ça, c'est indissociable de l'Auvergne pour toi, Jérôme?
Oui, tout à fait. Pour moi, c'est toujours ma psychothérapie. Sauf que maintenant, je la pratique à la Guadeloupe, donc c'est pas tout à fait les mêmes pêches, c'est toujours la mouche. Mais il y a toujours le rapport à la nature. Puis quand même, un point commun avec le blues, qui est le timing, tu sais, le groove, dans le lancer, c'est indispensable. Si t'as pas de timing, t'es mort. Et comme dans le blues, si t'as pas le groove, t'es mort aussi, tu vois.
Moi, j'avais entendu dire que le vrai pays de la pêche à la mouche, c'était plutôt l'Irlande, mais je me trompe sûrement parce que je suis pas pêcheur.
Ah, mais tu as raison, mais pour le saumon, si tu veux, ouais, tu vois, voilà, ouais. Que j'ai pêché aussi, mais c'est une des formes de la pêche à la mouche. Pêche traditionnelle, j'ai pêché avec la 15 pieds et tout ça sur l'aspect. C'est vachement bien, mais il y a des tas de pêches à la mouche. Il y a un grand pêcheur à la mouche américain qui s'appelle Lee Wolf qui a dit il y a des années, tous ceux qui portent des écailles peuvent se pêcher à la mouche. Donc là, je pêche les poissons de mer qui sont terribles. À la mouche, je pêchais le brochet même, tu vois, voilà, puisque on dit à la mouche, en fait, c'est le mode de pêche qui est le fouet. Et on imite des insectes ou n'importe quoi d'ailleurs. Là, en l'occurrence, ici, j'imite des crevettes ou des crabes, tu vois, pour pêcher les bonnefiches, les permites, les tarpons, etc. Mais c'est toujours de la pêche à la mouche. Voilà.
Jérôme Pietri,
avec une éthique particulière.
Ouais. Jérôme Pietri, qui grand pêcheur devant l'Éternel, hein, qui nous a parlé déjà dans son album précédent de 2014 de oui. pêche. Et on va évoquer tout à l'heure cet album qui s'appelle tout simplement Last of the Fishing Days, millésime 2021. Yes. Mais j'en ai pas tout à fait fini avec les mots-clés. Peut-être en quelques secondes à chaque fois, nous dire ce que ça t'évoque, Jérôme, si tu veux bien. L'Afrique.
L'Afrique, le blues, évidemment, en premier, sans réfléchir. Quoique le blues est vraiment l'idiome des Afro-Américains et le mélange des deux. Voilà. Et non point la musique africaine, comme on peut le dire certains. Tu sais, j'avais fait un stage avec Michael Okai Herman, qui est un type formidable, et qui a mis au point une méthode pour parler du blues en s'adressant jusqu'à des enfants de 6 ans, ce qui m'intéressait grandement. Donc je disais que c'est vraiment l'idiome des Afro-Américains. Qui était, c'est une musique, mais aujourd'hui c'est à la mode, mais c'est un métissage qui a duré 3 siècles, mais qui vient d'une souffrance terrible. C'est pas la musique africaine, c'est pas la musique irlandaise, il y a des deux, et c'est vraiment le summum la réunion de ces influences qui fait le blues. Et qui, pour moi, tout à l'heure, je parlais de ce que ça me faisait, j'ai une article qui n'est peut-être pas rationnelle, mais au sujet de ce que me procure le blues, c'est que c'est une musique qui vient d'une souffrance terrible qui a duré 3 siècles, et quand tous les éléments de cette musique sont réunis, l'aberration harmonique, chantée ou jouée en mineur sur du majeur, les blue notes, le mélange binaire ternaire, et bien tout ça, ça me met dans un état second, que je peux pas décrire, même si le texte est pas terrible, tu vois, même si les types disent, par exemple, et si on allait tous se saouler honteusement, et par exemple, le blues qui me touche le plus, c'est moi, c'est celui des années 30, une vie nombure, leur vie ne tenait qu'un fil. Mais, cela dit, quand le blues s'est électrifié et qu'il y a eu l'immigration vers les villes, les textes sont devenus très très légers. Et dans le rock'n'roll, j'en parle pas, il y a certains textes, même dans le blues, dans le Chicago blues d'ailleurs, où les gens parlent de leur peine, même de leur histoire de fesses, il faut bien le dire, ou de leur bagnole. Les textes sont très légers. Mais dès lors qu'il y a ces ingrédients, ça me hérisse les poils. Donc je me dis qu'il y a un côté magique et que cette musique, dès lors qu'il y a ça, ça me met dans un état indescriptible. Voilà, et j'adore ça. C'est pas une explication rationnelle. Il y a tous ces ingrédients dans le rock'n'roll, voilà. Le jazz, la soul, le funk, tout ça, toutes ces musiques, il y a tous ces ingrédients.
Jérôme, à partir du moment où on parle de musique, il ne peut pas y avoir que des explications rationnelles, c'est bien normal.
Effectivement, tu as raison.
J'ai un autre mot-clé à te proposer, mais celui-là, tu l'as déjà un tout petit peu évoqué, c'est le mot Guadeloupe. Alors, oui. Et puis derrière, il y a pourquoi la Guadeloupe, en fait?
La Guadeloupe, j'y vis depuis 3 ans et demi. Opportunité avec ma fiancée qui a eu l'occasion de venir ici. Donc, j'ai sauté dessus parce que, pour plusieurs raisons. D'une part, c'est toujours intéressant d'aller voir ailleurs comment ça se passe. Parce que je considère, c'est que mon avis, hein, que les Occidentaux et notamment les Français ont toujours tendance à se prendre pour le nombril du monde et à focaliser sur leur petit ventre. Ah bon, donc c'est toujours intéressant.
On m'aurait menti, je pensais que c'était vrai ça pourtant, que le Français était... Parce qu'on n'est même pas 1% des terriens, mais on a l'impression que, je ne sais pas, à écouter le Français, il y a le Français et les étrangers, mais qui sont beaucoup moins nombreux, c'est bizarre, non?
C'est vrai, mais tu as parfaitement raison. Donc c'est une des raisons. Cela dit, j'adore la France, il y a plein d'avantages. La France, c'est un beau pays, il y a plein de trucs géniaux. Le vin, les fromages.
Et puis, le vin, les fromages et le statut des intermittents aussi, peut-être.
Oui, tu vois, tous les pays, tu vois d'ailleurs, Neil Black, tu sais, quand ça a commencé le Covid, il y a un an et demi, il y a eu une interview de pas mal de gens du métier. Il a dit un truc super, il a dit « on a beaucoup de chance d'être en France
eh ». Oui.
Parce que aux États-Unis, quand ça a commencé, je crois que tous les musiciens d'un gros niveau ont touché peut-être 200 dollars, je suis même pas sûr, et c'est tout. Et en Angleterre, mon amie Isa, ma tourneuse qui fait tourner des Anglais à haut niveau, elle m'a dit qu'il y avait des Anglais, mais connus, des mecs qui se sont mis à faire livreur. Il y a un an et demi, tu vois
ben
le
oui,
truc.
Ben oui,
donc
ben
oui, les intermittents, c'est un truc incroyable. Ça n'existe qu'en France, vraiment.
Alors,
vraiment chaque
là, tu es en Guadeloupe, c'est toujours un petit bout de France. Mais quelle est
oui,
la différence,
oui, complètement.
Quelle est la différence principale avec la métropole, avec la France métropolitaine, finalement? Est-ce qu'il y en a une, d'abord, différence?
Ah, il y a des tas de différences, ouais. Effectivement. Bon, d'un point de vue vachement matériel, tout de suite, je suis quasiment nu. Tu vois, en fait, je suis torse nu, en sorte. Voilà, et c'est toute l'année comme ça.
Mmh.
Après, au niveau de la culture, évidemment, la nature est sublime, j'adore. Tu vois, puis pour la pêche, c'est génial aussi. Moi qui suis très contemplatif, la nature, ici, c'est d'une beauté absolument sublime, tu vois, partout. Il n'y a pas d'endroit moche, tu vois, j'essaye de trouver, je ne suis pas arrivé. Les gens sont cool la plupart du temps, tu vois, on entend des groupes qui chantent, ils sont racistes, c'est pas vrai. La majorité des gens sont cool, quoi.
Mmh.
Il y a plus de gens cool, me semble-t-il, ici qu'en métropole.
Très bien, voilà. ça c'est bien parce que ouais. ça réhabilite un certain nombre peut-être d'idées mal reçues,
oui.
On va dire, comme quoi ben,
le
métro au Guadeloupe, il est là pour donner des euros et puis repartir dans son avion le plus vite possible. Quoi.
Non, il y en a certains, je ne peux pas y... Mais je pense qu'il faut se garder des généralités.
Bien sûr.
Et globalement, je trouve les gens plutôt cool, quoi. Tu
très
vois,
bien.
Vraiment, vraiment.
Et en plus...
Puis, il y a l'esclavage, évidemment. Ça, si tu veux, ça s'est passé après coup. Mais d'où rapport avec le blues, tu vois, et la musique que j'aime, c'est que ici, l'esclavage est encore très présent dans les mémoires, quoi.
Mmh.
C'est évident. C'était terrible. Bah, comme tous les esclavages, d'ailleurs.
Bien sûr.
Mais ici, ça crée d'ailleurs une identité culturelle un peu spéciale parce que la majorité des gens se sentent pas tout à fait attachés à la terre, ils se sentent pas non plus africains, tu vois. Ils sont un peu déracinés, il va falloir du temps avant qu'ils s'adaptent. Ils sont pas attachés à la terre et à l'avenir parce que à l'époque de l'esclavage, bon, leur vie ne tenait qu'à un fil, donc les gens étaient très, très fatalistes, quoi.
Et tu penses que ça, c'est inscrit dans les gènes des Guadeloupéens de 2021, malgré décennie passée depuis l'abolition de l'esclavage?
Oui. Enfin, il me semble, hein, je n'ai pas la science infuse, mais oui, les gens font pas trop de prévisions, quoi, tu vois.
D'accord.
Souvent, ils font pas trop de prévisions parce qu'ils ont été habitués. C'est un peu dans les gènes, ouais, à ce qu'il n'y ait pas de lendemain, tu vois. Peut-être.
Ouais.
Voilà.
Alors, Jérôme,
il faut se garder des généralités.
Et ben, voilà. dans tous les cas, oui, je pense bien. Mais ça, tu nous éclaires bien là-dessus, effectivement. Les généralités, c'est pas tellement ton truc, on a bien compris.
Non, pas trop. J'essaye d'être ouvert le plus possible.
Ouais,
voilà, mais je suis qu'un être humain avec ses défauts. Donc,
ça s'entend bien. Jérôme, les deux mots-clés suivants vont te ramener sur des lieux où tu t'es produit. Alors, le premier des deux, ça va être le Buy Blues Festival. Le Buy Blues Festival à côté de Limoges.
Ah, le Buy.
Eh oui.
Ah, c'est très important. C'est très important pour moi parce que pour plein de raisons. D'abord, Lolo Bourdier, l'organisateur et mon pote.
Salut Laurent.
Le coparolier des textes. Depuis des années, donc ça c'est vachement important. Puis on s'entend très très bien. Et puis le Buy, c'est vrai que c'est pendant le festival, c'est un lieu un peu hors du temps, quoi. C'est vrai que c'est pas du tout pour passer la pommade, c'est pas de la flagornerie, mais je pense qu'il y a beaucoup de gens qui le disent. Il y a vraiment une convivialité hors du commun, quoi.
Oui, oui.
Tout le monde.
Mais c'est vrai parce que tu n'es pas le premier à le dire, même si un mensonge répété n'en fait pas une vérité. Moi, je constate quand même que tous ceux qui sont passés par le Buy Blues Festival à un moment donné, que ce soit des spectateurs ou des musiciens, personne ne peut oublier ça, quoi.
Bah, tout le monde, si tu veux, moi, c'est les réflexions que j'ai de tout le monde, et c'est l'unanimité, c'est que ce soit au niveau des musiciens, des organisateurs et du public, et des bénévoles, qui sont des crèmes, bon, bah, c'est génial, quoi. Il y a une ambiance vraiment fabuleuse.
C'est
voilà.
C'est ce que tu disais.
Dire de plus.
C'est voilà. Ce que tu disais, Jérôme, ouais. En filigrane par rapport à Laurent Bourdier, qui préside aux destinées de ce festival, c'est qu'il coécrit les paroles de ton album avec toi. Voilà.
Oui.
J'ai un autre lieu, peut-être que ça va te rappeler instantanément des souvenirs, l'Olympia de Paris.
Oui, ah, l'Olympia, grand moment. Là, avec des potes, dont le clavier de Murat, Denis Clavezol, qui est un ami. Bah, Denis m'avait branché il y a des années pour faire un tribut de Pink Floyd parce qu'il était retombé sur un vieux pote, voilà. Et bon, on a fait ce truc-là au début juste pour le pied et on s'est retrouvé sur la scène de l'Olympia qu'on a blindé et c'était un grand moment, même si c'est un tribute, si tu veux. Mais nous, on avait choisi délibérément de pas prendre de nom. On s'appelait Hommage à Pink Floyd afin de ne pas exister en tant que groupe et de juste, c'était l'idée du bassiste, mais c'est une bonne idée, de juste exister en tant qu'interprète. Qui venait interpréter la zig du Floyd, voilà, comme des musiciens classiques interprètent du Beethoven ou du Brahms, etc. Voilà.
Exactement.
Pour cette raison, on n'était même pas dans les lights, si tu veux, on était en ombre chinoise, c'était volontaire. Voilà. Ah tiens, je reconnais. Ah oui. Ah oui, Shine.
Exactement, Shine on You Crazy Diamond.
Ah, terrible, grand moment.
Voilà, le dernier mot-clé, c'était évidemment Pink Floyd. Voilà, un des groupes fondateurs de toutes les musiques des années 70 et après. Également le blues qu'on peut retrouver sous les doigts d'un certain David Gilmour, qui fait partie des guitaristes, des noms de guitaristes que je voulais te soumettre. Tiens, voilà, quelques noms de guitaristes comme ça qui vont peut-être t'évoquer des souvenirs. On commence par David Gilmour, justement. Tu l'as rencontré, tu as discuté avec ce garçon ou pas hein?
J'ai failli, parce que notre tourneur à l'époque était pote avec lui. Malheureusement, ça s'est pas fait.
Bon,
mais je sais que c'est un type formidable. Parce que quand on a enregistré avec Jean Murat chez Pathé, et l'ingé son de l'époque, Claude Wegner, avait bossé avec David Gilmour sur un album solo, et il avait dit que c'était un être humain exceptionnel, d'une grande gentillesse, un gentleman, voilà, un type super. Et musicalement, bon bah évidemment, quand je me suis retrouvé en train de bosser les parties de Gilmour, en plus on avait 2h30 de répertoire, c'était un gros boulot, j'avais pas écouté ça depuis fort longtemps, mais j'ai pas du tout été dépaysé, parce que, bien sûr, il y a tout le langage du blues.
C'est vrai.
C'est-à-dire, il y a vraiment, rythmiquement, il y a le mélange binaire-ternaire, qui est une caractéristique, et puis, il y a les blue notes, le fait de pouvoir jouer mineur ou majeur sur un accompagnement majeur. Et donc, il a vraiment, il faut pas oublier que David Gilmour a vécu le blues boom.
Bien sûr.
Et entre autres, d'ailleurs, c'est non, Philippe Doga, le bassiste de Bijoux, que j'avais rencontré, on allait sur une date ensemble, on a discuté très longtemps, me racontait qu'il avait vu un trio d'anglais qui jouait du Hendrix de la mort sur la Côte d'Azur. Et un an après, il était à Londres, et Pink Floyd commençait, et le guitariste qui jouait Hendrix super bien, c'était Gilmour. Qui est pas surprenant, tu vois.
Ah voilà. Oui, d'accord. Ouais. Et ça, c'était peut-être avant que Gilmour intègre Pink Floyd, c'était Syd Barrett à l'époque.
Absolument. C'était avant que Gilmour intègre Pink Floyd, absolument.
Alors, le guitariste suivant sur lequel tu pourrais réagir, mais tu viens de le faire, c'est Jimi Hendrix, justement. Ça fait partie de ma petite liste de 6 guitaristes.
Aïe, aïe, aïe.
Oui. Qu'est-ce qu'on peut dire sur Jimi Hendrix, Jérôme, en quelques. Allez, en une minute.
Extraterrestre. Extraterrestre, génie créatif, le groove de la mort, il jouait funk, quoi, voilà. Le son de malade, mais le son des doigts. Par exemple, beaucoup de guitaristes focalisent beaucoup sur les pédales de Hendrix, notamment la fuzz et tout. Moi, c'est marrant, j'ai toujours détesté la fuzz. Sauf chez Hendrix. Pourquoi? Parce que il a déjà le son des doigts. Et puis qui jouait sur les Marshall très très fort, il avait déjà le son blues. Donc s'il mettait une fuzz par-dessus, il avait déjà un chouette son.
Est-ce qu'il aurait eu le même son s'il avait été droitier, Jérôme?
Franchement, je pense. Ouais. Il y aurait eu de très légères différences, puisque il était gaucher, mais il jouait pas avec les cordes à l'envers comme Albert King et tout, ce qui donne une approche guitaristique vraiment spéciale. Voilà, avec Albert King qui fait des gros bams puisqu'il jouait à l'envers, voilà, sur les cordes aiguës. Mais Hendrix, bon, il y avait les micros qui étaient à l'envers. Bon, ok, ça sonne un peu différemment. Et puis le vibrato, la tige de vibrato qui était à l'envers, il s'en servait d'une autre façon, avec le coude et plein de trucs, voilà. Mais franchement, je pense que c'est vraiment de la broutille par rapport à tout le jeu de Hendrix. Enfin, ça n'engage que moi.
On va passer en revue encore d'autres noms de guitaristes et puis en même temps, ça va rejoindre une des premières questions que je te posais. Blues, rock, jazz, on va rester un petit peu dans ces trois idiomes-là et notamment un guitariste qui lui, a fait également la jointure entre les trois styles, c'est Jeff Beck.
Ah, Jeff Beck, autre extraterrestre, pas comme Hendrix, mais qui était vraiment un cas à part. Mais Jeff Beck, la folie et l'originalité. Moi, je suis fan au dernier degré, même aujourd'hui, son premier album solo, Truth, qu'il a enregistré en 67-68, où il a vraiment, mais je sais pas, 15-20 ans d'avance au niveau du son. Il jouait pas encore sur sa Strat, il avait pas trouvé son style définitif, mais il jouait sur une Les Paul. Mais ce premier album avec Rod Stewart au chant et Ron Wood à la basse, justement, mésestimé, cet album, il est monstrueux, quoi. Il est monstrueux. Et après, il a trouvé son style aujourd'hui en jouant sur une Strat, et son jeu est vraiment unique. Puisqu'il joue avec les doigts, main droite, et en même temps avec le bouton de volume. Moi, j'arrive pas, j'ai mon petit doigt qui est pas assez grand. Je me fais opérer. Et en même temps, avec la tige de vibrato, où il contrôle vers le haut et vers le bas, et toujours vraiment juste. Et ça lui donne une approche vraiment unique, que certains ont repris fort bien. D'ailleurs, Bonamassa, connaît son petit Jeff Beck illustré sur le bout des doigts. Il a fait une version de Ruddy Knight qui est monstrueuse dans le style de Jeff Beck. Mais Jeff Beck est unique, à mon avis. Hein. Après, il y a eu le virage jazz rock en 75, quand il a écouté John McLaughlin. Bon, il s'est jeté là-dedans prenant des grands standards comme Goodbye Pork Pie Hat, Charlie Mingus entre autres et tout. Voilà, mais c'est un extraterrestre, Beck. Il y a des périodes que je préfère, comme Miles Davis d'ailleurs, c'est rigolo. Il y a plusieurs périodes.
Il y a d'autres guitaristes, on pourra en évoquer 40, hein, mais on n'a pas tout à fait toute la nuit. Mais par contre, quelqu'un qui marque particulièrement cette émission, qui s'appelle Sweet Home Chicago, c'est Monsieur Robert Johnson, que tu cites parfois comme quelqu'un qui t'a influencé, du moins au début peut-être.
Ah oui, complètement. Robert Johnson, je vais dire aussi extraterrestre, tu vas me dire, il y a des extraterrestres. Bah oui, chacun dans leur truc, ce sont des extraterrestres. Robert Johnson était d'abord un grand poète vraiment inspiré, et qui mettait le frisson. Enfin, moi, il me le met, il se passait des trucs, sa vie était tellement dure. Hein. J'ai acheté le dernier bouquin, d'ailleurs, qui est super, c'est Le Diable a surgi, d'ailleurs. Oui. On apprend encore des trucs aujourd'hui qui est vachement bien, que je vous recommande. Et Robert Johnson avait une particularité, c'est que son approche n'était pas linéaire. Je me sens tout terrible. Ça me met les poils, tu vois, rien que d'entendre ça, ça y est, tu vois, mais j'ai des poils du dos qui se hérissent.
Robert Johnson. Voilà. Un garçon qui est mort à 27 ans, comme certains autres, Robert Johnson, et puis qui a sa légende derrière lui, bien sûr.
Oui, juste un mot, son approche unique, il était le seul, parce que j'ai beaucoup travaillé, tu sais, l'histoire du blues, j'ai bossé tous les styles il y a une quinzaine d'années pour savoir de quoi je parlais. Eh bien, la plupart du temps, dans le Delta Blues, dans le blues des origines, les mecs jouaient une ligne de basse linéaire, ils jouaient la mélodie sur les cordes aiguës, tu vois, en chantant, souvent ça doublait la voix, et Robert Johnson, lui, pas du tout. Lui, il fait tantôt la mélodie, tantôt les accords, un coup de slide, un truc, et il passe de binaire en ternaire, rien que dans Crossroads, c'est infernal. Il n'arrête pas, tout en gardant le fil, évidemment, rythmique, il est capable de faire une mesure en binaire, deux temps en ternaire, trois temps, etc. C'est infernal, quoi, à jouer. C'est très, 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 très complexe. Et c'est vrai qu'il y a un petit peu de contrepoint, comme disait Keith Richards. Je ne vais pas dire que c'est du Jean-Sébastien Bach, comme a dit Keith Richards, il exagère un tout petit peu. Mais il y a un peu de ça, quand même. C'est très élaboré.
Ça s'appelle de la culture, tout simplement, Jérôme Pietri. Je me délecte à t'écouter répondre, et puis à naviguer d'un artiste à l'autre, à faire des ponts entre les styles. Non, vraiment, C'est un plaisir à entendre ce genre de choses.
Mais pour moi, tout se tient, tu vois. C'est comme ça.
C'est décloisonné pour toi, la musique, c'est ça, en fait, hein.
Oui, oui, complètement, ouais. Complètement. Je sais pas, je me pose même pas la question. Oui, complètement. Mmh. Oui, c'est très décloisonné, d'ailleurs. Mais je pense que, sans être méchant, j'ai l'impression que c'est un comportement un peu français de cloisonner, vraiment, de faire des micro-chapelles.
Oui, c'est une
alors
remarque.
Les Américains n'en ont rien à cirer,
c'est
quoi.
Clair,
vraiment rien.
Mmh.
Eux, ce qui les intéresse, c'est que ça joue. Le reste, ils s'en tamponnent, tu vois. Mmh. Du moment que ça joue, tout va bien, et voilà, quoi.
J'ai deux autres non-guitaristes à te soumettre. Le suivant, c'est quelqu'un qui est toujours parmi nous, Billy Gibbons.
Ah ben, grand fan de Billy Gibbons, parce que j'ai joué au début des années 80 avec deux super potes, dont le batteur qui joue sur l'album, d'ailleurs sur Last of the Fishing Days. On avait créé un trio.
Thierry Doma.
Qui s'appelait El Diablo. Non, Christian Borragno.
D'accord.
C'est l'autre batteur. Voilà. Thierry Doma est le batteur avec lequel j'ai joué en duo et même en trio il y a 5 ou 6 ans, à l'époque de Gone Fishing.
Okay.
Voilà. Et en fait, on avait fait ce trio qui s'appelait El Diablo. On reprenait pour le pied. On s'était tous barrés sur divers projets, mais on était restés potes. Et on avait créé ce trio pour jouer du ZZ Top dans les bistrots, pour s'éclater.
Donc déjà, il y a 35 ans, tu faisais un tribut de ZZ Top, quoi.
Oui, c'est ça, exactement. Ah.
On parlait de Pink Floyd,
oui,
effectivement, voilà, des artistes auxquels tu rends hommage. J'ai envie de dire maintenant, les tributes, c'est très très à la mode. À l'époque, ça n'était pas forcément, même si bien sûr, beaucoup de groupes reprenaient un ou deux morceaux de chaque artiste. Mais là, c'était le répertoire ZZ Top carrément, c'est ça, que ça.
Ah ben nous, c'était à fond. Oui, oui, le choix du nom même, c'était délibéré.
Oui,
Diablo. Puis on était dans des groupes avant c'était pas marrant, si tu veux, les mecs étaient bornés, si tu veux, musicalement et tout. Donc nous, on avait décidé de se barrer, voilà, tout en prenant la musique très au sérieux, ce qui n'a rien à voir, ce qui n'est pas incompatible. Et donc, le nom était un peu décalé, parce que El Diablo, c'est un titre qui n'est pas connu, même aujourd'hui, tu vois. Donc, comme nom de groupe, tu vois, blues, rock'n'roll, ça faisait pas sérieux. Ça sonnait un peu comme un trio de trapézistes italiens ou hongrois, je sais pas, tu vois. Et on a joué pratiquement tous les titres du top du first album à El Loco.
D'accord, et donc toute la partie des années 70, globalement, pour simplifier.
C'est la partie que j'aime vraiment, parce que bon, j'adore Billy Gibbons, qui en plus d'être un grand guitariste et un grand musicien tout court, est un type intellectuellement brillant, qui est très très fin, très cultivé et plein d'humour. Mais après, bon, à partir des machines, à partir de Eliminator, ça a plus été ma tasse de thé. Parce que bien qu'il soit devenu milliardaire grâce à ça, et c'est là, donc tant mieux.
Mais Jérôme, je te propose d'écouter les deux derniers albums solo de Billy Gibbons, donc hors ZZ Top.
Tu
as écouté, et donc qu'est-ce que tu en penses?
Dans la vie. Ah bah j'adore Gibbons, parce que lui, personnellement, si tu veux, j'aime beaucoup ce qu'il fait récemment, parce que ça doit être le privilège de l'âge, puis il doit être moins énervé avec moi, si tu veux, sur un paquet de nerfs, mais il joue de plus en plus step back, tu vois, et avec peu de notes, avec un son monstrueux, un son énorme, et un super rythmique. Bon, le batteur est monstrueux, il est excellent, mais je préfère de très loin le jeu de Frank Bird, qui est un immense batteur de blues. Les parties de batterie, les vieux titres de ZZ Top, sur des titres comme El Diablo, d'ailleurs, Perdit on the X, tu sais, les parties de batterie étaient fabuleuses. Et même la tournerie de la grange, hein, ça a même parlé de la rentrée, rien que la tournerie, c'est hyper dur à jouer, c'est très très fin, ça groove, il y a un contrôle terrible.
Ah oui, c'est très propre, c'est très carré, effectivement. Un autre guitariste, un dernier que je voulais te soumettre.
J'adore Gibbons.
Billy Gibbons, David Gilmour, Robert Johnson, Jeff Beck, Jimi Hendrix, et puis le dernier de ma petite sélection, on pourra en ajouter 40 derrière, mais allez, pour rentrer dans un style complètement différent, Mike Stern.
Ah, Mike Stern, j'adore. Je l'ai bossé aussi à une époque sur le premier album de Miles Davis, sur lequel il est apparu Man with the Horn.
Ouais.
Voilà, j'ai essayé parce que c'est dur quand même. J'ai repiqué le solo qu'il faisait sur ce titre. Et je suis fan de Miles Davis aussi, il faut savoir. Bien que je sois fan de la période Kind of Blue. Voilà, l'apologie des silences.
Juste pour que les gens se rendent compte, tiens, on écoute quelques secondes, on va voir qu'on est complètement dans un autre univers quand même. Hein.
Ah, complètement. Ah, je reconnais.
Voilà, avec un petit passage de solo qui évoque quand même un petit peu Jimi Hendrix, hein, sur les bords, mais bon.
Oui,
voilà.
Oui, assez, mais il y a cet esprit de il y a tout ce, comment dire, tout ce vocabulaire fusion, le jeu out un peu, ouais, tu vois, ouais, c'est ouais. très très subtil. Et puis la rythmique est très très funk. C'était une période où Miles était très très funk. Voilà, même avant la période avec Marcus Miller. Mais enfin, moi, voilà, Mike Stern, je suis pas fan de tout ce qu'il fait maintenant parce que je suis pas. Lui, il a des connaissances. Comment dire, il possède le bop à fond, ce qui est pas mon cas. Tu vois, je suis pas vraiment un jazzman, même si j'ai joué du jazz et que j'adore ça. Je serai jamais vraiment un jazzman pur, mais c'est contrairement à un externe qui est un grand jazzman qui a une maîtrise de l'harmonie à un très très haut niveau, tu vois. Quant à Miles Davis, mon album préféré, c'est je saute dessus, c'est pas un guitariste, mais c'est une de mes grandes influences, c'est Kind of Blue. J'adore ça, Kind of Blue, et la période précédente où il a fait Ascenseur pour l'échafaud. D'ailleurs, j'ai même repris pour le pied, j'ai un truc sur YouTube là-dessus, filmé par les amis de Tianbo, où je reprends All Blue en slide, tu vois.
D'accord.
Et pour le pied, parce que je trouve que la trompette de Miles à cette époque-là a une qualité vocale qui est de même que la guitare slide, tu vois. Jouer dans l'esprit de Glenn Oldman, Warren Ellis Company, Derek Trucks, tu vois, très contrôlé au doigt, c'est très très, ça évoque une voix, tu vois, un amour. Et donc j'ai repris All Blues, c'était une super expérience, c'était très très coton à travailler en accordage standard, en slide, les phrasés de Miles, c'était du boulot, mais c'était le pied.
c'est bien parce que, en fait, voilà, j'évoque avec toi des guitaristes et tu nous renvoies, pourquoi pas aussi à des pianistes, des saxophonistes, enfin bon,
oui, là, oui, Miles Davis, oui, trompettiste, mais quoi, oui.
fondateur de tout ce que l'on, de tout ce qu'on connaît. Jérôme Pietri, travailler sérieusement sans se prendre au sérieux, c'est un petit peu ta devise, j'ai envie de dire, mais venons-en à ton album. On va écouter un extrait de l'album, on se retrouve juste après, Jérôme.
Yes. Ok. Down the line, cause this life is mine.
Voilà, on vient d'entendre un extrait de cet album Last of the Fishing Days. Ce que je te propose, Jérôme Pietri, toujours au téléphone, oui. Sur le 666, dans Sweet Home Chicago. On va écouter un extrait de chaque plage. Il y en a 10. Et puis, je te propose de réagir, voilà, d'intervenir, de dire de quoi parle ce morceau. Monkey on my back. Voilà, gros morceau de slide pour démarrer cet album.
Oui.
Alors, un singe sur mon dos, sur mon épaule.
C'est ça. Juste un mot pour la musique, c'est très slide. C'est une des deux approches de slide que j'adore, c'est celle de Dan Holman, Wine Hands, Derek Trucks, donc joue au doigt, et là, qui imite un peu un harmon, c'est ça l'esprit.
Oui, c'est ça.
Après, le texte, c'est une expression qui veut dire, en gros, j'ai un truc qui m'emmerde, ou alors... dans le langage des drogués, ça peut vouloir dire aussi de la dope, je suis accro. Mais là, c'est pas le cas. C'est un des textes, on va dire, les plus légers de l'album et qui est pas vraiment écolo ou qui parle pas des travers des gens aujourd'hui qui conduisent à la destruction de la planète, notamment la quête de l'argent, voilà, par tous les moyens. Et c'est un type qui dit qui à sa copine, écoute, j'aime pas ta façon de voir les choses, j'ai pas besoin de ton amour, j'ai pas besoin de ton business, ça m'intéresse pas, casse-toi.
D'accord, carrément. On commence comme ça l'album.
En gros,
voilà.
C'est ça, j'ai un truc, j'ai monkey on my back, en fait c'est sa bonne femme qui l'a sur le dos, qui lui pourrit la vie. Et c'est un peu une version différente de Elle m'emmerde, vous dis-je, de Georges Brassens.
D'accord. Je voyais pas ça comme ça, mais bon, c'est très bien. Alors, tu évoquais l'écologie qui est une des tes principales préoccupations. On a écouté il y a quelques temps, il y a pas très longtemps, on a écouté ce titre Plastic Island, le septième continent. Ben voilà, en plus, la pochette s'y prête tout à fait. Pour ceux qui n'ont pas vu la pochette, on voit juste tes deux mains accrochées à ta Gibson et puis le reste de ton corps est absolument immergé dans ce fameux septième continent, cette poubelle qui se trouve sur à peu près tous les océans maintenant. Qu'est-ce que c'est optimiste, c'est pessimiste, ça se veut dénonciateur de quelque chose. Pourquoi ce titre Plastic Island? Qu'est-ce que ça veut dire en fait?
Ah, ça veut dire, c'est le septième continent. Oui. Donc effectivement, c'est cet océan de plastique qui fait trois fois la surface de la France, qui dérive actuellement, au moment où on se parle, dans le Pacifique, entre la Californie et Hawaï. Il faut savoir aussi que dans 20 ans, s'il n'y a rien de fait, il y aura plus de plastique que de poissons dans les océans. Mmh. Donc c'est vrai que c'est quand même, je ne suis pas du tout aigri, ce n'est pas un discours aigri, je dénonçais déjà ces trucs-là il y a 7 ou 8 ans.
C'était ça la question, quand tu parlais de going fishing, c'est pareil, Ouais.
Voilà, gone fishing, j'étais déjà très inquiet. Bon, moi je suis en tant que pêcheur à la mouche, je suis hélas un témoin privilégié de la destruction de la nature. J'ai assisté il y a plus de 20 ans à la disparition des éphémères, des insectes aquatiques qu'on imite quand on pêche à la mouche, la truite, le saumon, tout ça. Voilà. Et là, c'est de pire en pire. Et là, je vis à 7000 bornes, à la Guadeloupe, et je vois que c'est le bazar partout, quoi. C'est très, très mal parti. C'est pas aigri, hein, c'est juste un constat. Mais je pense qu'aujourd'hui, dans le monde entier, il y a de plus en plus de catastrophes qui sont liées à la destruction de la planète et au réchauffement climatique, liées à l'activité humaine, et notamment aux puissants qui n'ont d'autres préoccupations que celles que de se faire de plus en plus d'argent au détriment de toutes les autres valeurs, y compris la vie humaine. Voilà, et donc je pense que c'est très très mal barré, tu vois, la COP26. Bon ben, les décisions qu'ils prennent, ils tiendront jamais parole comme d'habitude, de toute façon, et même s'ils faisaient quelque chose maintenant, il y a déjà des dégâts irréversibles.
Ah, il y a déjà de l'irréversibilité, effectivement.
L'irréversible, et ça me fout la couille, si tu veux, pour nos enfants. Pas pour moi. Moi, je m'en fous, si tu veux, j'en ai plus. J'ai plus d'années, c'est de la lucidité, hein. Je suis en pleine forme, tu vois, je fais le max, crois-moi, pour pouvoir m'éclater dans la musique et la pêche.
Tu veux dire que t'es comme moi, t'as plus d'années derrière que devant, c'est ça l'idée, Jérôme?
Absolument.
Ouais, bah oui. Mais c'est pour ça qu'il faut penser aux enfants, je pense, quand même. Enfin, la planète, elle est d'abord à eux, on l'emprunte à nos enfants, surtout.
Complètement, c'est pas à nous, hein. D'accord, à 200%, c'est ce que j'allais dire. À la seconde, voilà, tu m'as devancé. C'est exactement mon idée et mon propos. C'est que pour nos enfants, moi je flippe vraiment, quoi. J'ai vraiment peur. Et d'ailleurs, bon, je vois ça dans les infos, a priori, beaucoup de jeunes aujourd'hui, plus de la moitié des jeunes aujourd'hui, ont carrément peur de l'avenir, quoi. Ils ont vraiment peur qu'il n'y en ait pas ou que l'humanité aille à sa perte. Effectivement, quand on voit le comportement des puissants, on peut se demander vraiment ce qu'ils ont dans la tête, quoi. Ouais. C'est incroyable. C'est scier la branche de l'arbre sur lequel on est assis, quoi.
Jérôme Pietri, je te coupe, excuse-moi, on va écouter un autre. On n'aura pas forcément le temps de passer tout l'album en revue, mais de toute façon, on écoutera quelques titres en entier, et puis ce sera le cas dans les prochaines émissions. Mais il y en a au moins deux que je voulais sur lesquels je voulais que tu réagisses. C'est celui-là d'abord. Big Brother Boogie.
Oui.
Et puis un dernier tout à l'heure. Mais déjà celui-ci. Alors là. Là aussi, bon, sur un fond de rock'n'roll, boogie, un petit peu guiré, Big Brother, ça cache quoi ce titre?
Ah, bah, c'est le fait qu'on est fiché, qu'on est tracé partout, voilà. Avec la carte bancaire, Internet et tout ça, et le pouvoir sans cesse grandissant du numérique. Regardez, si vous avez l'occasion, sans faire de pub, il y a une émission sur Netflix qui s'appelait « Derrière nos écrans de fumée » et qui était dans laquelle sont interviewés des gens qui ont créé Facebook, Google, Twitter, Snapchat, etc. Mm-hmm. Et ils dénoncent les dérives de ces instruments qu'ils ont inventés ou contribué à inventer en disant « C'est super, on a trouvé des trucs vachement bien pour l'humanité ». Mais comme toutes les inventions, elles peuvent être détournées. Si elle tombe entre de mauvaises mains, et là, avec les réseaux sociaux, par exemple, il peut se passer des trucs terribles. Il y a un contrôle des gens qui est terrible.
Ouais. Et ça, tu en parles notamment dans Big Brother Boogie. Mark Zuckerberg, voilà, je me souviens avoir vu un extrait vidéo où il évoquait le fait que lui-même met un bout de scotch sur la caméra de son ordinateur portable, parce qu'il n'a absolument aucune confiance. Voilà, c'est lui qui explique
qui
ça, quand
donc,
même. C'est
énorme.
Mark Zuckerberg, le créateur de Facebook.
Ah oui, Mark Zuckerberg. Ah ben, mais tu vois, je suis pas surpris, mais tu sais que tous les grands pontes de la Silicon Valley interdisent à leurs mômes l'usage des ordinateurs et des portables.
Voilà, donc
ils les envoient dans des écoles, ils leur font construire des cabanes en bois, jouer avec des jouets en bois, etc. quoi.
Donc ils sont en train ils sont en pleine décroissance alors qu'ils nous ont envoyé de quoi bien nous vider la cervelle, c'est ça?
Ah oui. Je dis ça, je vais pas refaire le monde et j'ai pas la science infuse, hein. Mais bon, regardez cette émission où il y a derrière nos écrans de fumée. Mmh. Vraiment, c'est révélateur et c'est vachement bien, quoi. Ouais, tout à fait. Et bon, musicalement, c'est rigolo, c'est un mélange de rock'n'roll, oui. De rock'n'roll et de swing. Mmh. Voilà, de swing années 40-50. Oui, voilà, le solo est très très swing.
Ouais, complètement.
J'ai eu envie de faire ça parce que j'aime bien surprendre, si tu veux, t'as remarqué, j'aime pas trop les trucs standards, enfin, en ce qui me concerne. Hein.
Oui, oui.
Et donc, j'aime bien, moi, quand je vais dans un concert, j'aime bien être surpris. Et là, ça aurait été de faire un gros solo rock'n'roll. Bon, bah, j'ai préféré faire ça. Puis le riff de l'intro, par exemple, c'est un truc très cuivre, quoi, tu vois.
Ouais, c'est un truc à la Glenn Miller. On va terminer ce passage en revue de quelques extraits de cet album, yes. Qui s'appelle Last of the Fishing Days avec Collagen Woman. Hein, on est dans un autre domaine.
Ah non, là, ça arrive. Là, c'est presque assez décès. C'est très drôle, ce
oui. Alors, qu'est-ce qu'il raconte ce titre, Jérôme?
Ah, eh bien, là-dedans, je me moque d'une. C'est très dérision, cet album est autodérision. Mmh, mmh. Voilà, tu commences à me connaître. Je me moque des, comment dire, des trophées qu'exhibent les puissants de ce monde. D'ailleurs, il y a un autre titre qui s'appelle Trophy, dans lequel j'en parle de façon plus précise. Et je parle des super mannequins, hyper siliconés, collagénés et tout, que les puissants de ce monde exhibent à leur côté. Parce que bon, comme il trompe avec sa femme, par exemple, tu vois, c'est vraiment catastrophique, cette dérive, on donne cette image de la femme qui doit être parfaite, parfaite selon les canons d'aujourd'hui, sexuel, quoi, voilà, avec une poitrine pas possible, les lèvres collagénées, les yeux tellement tirés qu'on croirait des serpents, quoi, et la bouche Donald Duck, tu vois, c'est ça. Mmh. Et donc, en fait, je me moque gentiment, enfin non pas gentiment, mais on s'en fout, de ces filles, c'est un peu, non mais allô quoi,
ouais.
Tu vois, qui ont le QI d'une huître perlière et d'une pintade femelle, et encore je suis gentil, tu vois.
Ah mais non, mais une huître tout court, parce que perlière, il faut déjà avoir huître. Deux neurones de plus quand même pour fabriquer ça.
Tout à fait.
Collagen Woman, Jérôme Pietri. Voilà, un album hors des conventions, on va dire, pour résumer un petit peu. Hein, c'est ça, Jérôme. Les conventions, oui. C'est fait pour s'asseoir dessus, c'est comme les concessions dans les cimetières. Hein,
c'est mon avis. Ça n'engage que moi. Mais c'est marrant parce que, tu vois, l'album marche de mieux en mieux. Hein, alors que je te jure, je me disais, t'es con, tu vas en vendre trois.
Ah ben non, mais attends, qu'est-ce que ça veut dire? Mais non.
Non, parce que si tu veux, j'ai pas essayé de séduire une catégorie de personnes bien déterminées, mais il s'avère que bon, le fait que ça soit authentique, enfin que je sois sincère dans la démarche, ça plaît à beaucoup de monde, parce qu'ils sentent justement que c'est un truc naturel, quoi, tu vois, est relativement original. Je révolutionne. Je suis bien conscient du fait que je ne révolutionne pas le monde de la création.
Non, mais on n'est pas là pour révolutionner, mais tu es là pour t'exprimer et tu le fais à travers notamment ces 10 titres. Yes. On a bien compris un certain nombre de colères et un certain nombre de dérisions, voilà. Oui. Et puis ta démarche musicale, oui, effectivement, qui est très, très éclectique. Moi, je suis toujours admiratif de ce que tu fais. C'est vrai que tu nous as laissé.
Très honoré, Marco. Non, mais merci
attends,
beaucoup.
Jérôme, tu nous as laissé sur 7 ans de réflexion entre 2014 et 2021. Tu t'es pris pour Marilyn Monroe à un moment donné ou quoi?
Oui, c'est vrai que ça.
On a attendu longtemps cet album, quand même, c'est ça que je veux dire.
Et moi donc, je t'explique pas, j'aurais dû l'appeler Désiré.
Désiré, effectivement. Comment est-ce qu'on fait, je pense aux auditeurs qui nous écoutent et qui n'ont pas encore tourné le bouton, Jérôme Pietri, Last of the Fishing Days, comment est-ce qu'on fait pour se procurer ce disque? Dis-moi.
Alors, il est distribué par Sopédisc, ouais. donc on peut le trouver sur Amazon, Fnac, Gibert, Leclerc, Espace Culturel. Il va être disponible sur les plateformes de téléchargement numérique habituelles, iTunes, Spotify, etc., à partir du 1er janvier, parce qu'il y a eu un petit souci bassement matériel, voilà, qui va être préparé sous peu.
Très bien. Bah, écoute, en tout cas, nous, on est le 4 décembre, on est début décembre, c'est un cadeau pour les fêtes qu'on pourrait conseiller. Il nous reste 3 semaines avant Noël, Jérôme, hein, c'est ça?
C'est vrai. Ah, là. J'essaye d'imaginer, parce que tout de suite, si tu veux, c'est pas du tout pour.
Ah, ben non, mais là, t'es en Guadeloupe et t'es en maillot de bain, on a bien compris, c'est juste impossible.
Ah, ouais, je vis quasiment nu.
Effectivement.
Ce qui est très rigolo, c'est décalé, si tu veux. Mais des fois, je vois des gens, souvent en période de Noël, c'est marrant, je vois des gens avec des bonnets de Père Noël, c'est assez marrant, tu vois. Au bord de la plage avec 30 degrés.
Jérôme, merci pour ta joie de vivre, merci pour ton optimisme malgré tout, hein, parce que c'est vrai que la Terre est dans un sale état, mais quand même, tu nous en donnes un bon compte-rendu, et puis encore une fois, ta musique décloisonnée avec le blues en filigrane et le rock'n'roll qui est toujours là présent, et puis le jazz aussi dans certaines volutes guitaristiques dont tu nous régales. Voilà, en tout cas, tout ça fait partie d'un album qui s'appelle Last of the Fishing Days, le dernier des jours de pêche. Moi, je t'en souhaite encore des milliers de jours où tu pourras pêcher à la mouche, Jérôme.
D'abord, merci beaucoup, je m'en souhaite plein aussi, puis je garde l'espoir quand même. Et je me dis que bon, c'est pas grand-chose ce que je fais, mais ça sera toujours peut-être un grain de sable, comme disait Pierre Rabhi avec la parabole du colibri, la jungle en feu, le colibri qui vole vers l'incendie avec une goutte d'eau dans le bec. L'éléphant se fout de lui, il dit « Mais où tu vas, mon pote ?» Et le colibri lui répond « Je fais ma part. »
Exactement.
Donc moi, je me dis, voilà, c'est un grain de sable, mais ça peut toujours faire passer l'info et amener des gens, voilà.
Effectivement. Merci Jérôme, merci beaucoup.
C'est
on peut te retrouver sur Internet, on peut te retrouver. Tu as un site, tu as un Facebook, tu as tout ce qu'il faut pour prendre contact avec toi.
Le site est en cours, mais sinon Facebook, oui.
Très bien.
Facebook, Jérôme Pietri Blues, oui.
À bientôt, Jérôme.
Voilà, j'espère vous voir bientôt. Normalement, je vais avoir des concerts en métropole.
Eh bien, reviens en métro quand tu veux.
Très bien. Yes, avec grand plaisir.
Salut, Jérôme.
La musique et mes potes me manquent. Allez,
à bientôt.
Au revoir, Marco. Merci mille fois.
Merci, Jérôme. Grand merci.
C'est moi. Merci, Marco.
Merci à Jérôme Pietri pour cette interview. On est en fin de deuxième heure de ce 1127e Sweet Home Chicago. On écoute un dernier extrait de l'album Last of the Fishing Days. Ça s'appelle Rabid Dog. On se retrouve la semaine prochaine. Salut. Never satisfied.